Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful. Ouais, vraiment beautiful. Et puis, j'en sais quelque chose parce que quand je me balade sur les réseaux, bah, je trouve plein d'innombrables posts se lamentant devant les signes des temps. Je suis vieux parce que j'ai des poils. Je suis vieux parce que Jumanji est vintage. Je suis vieux parce que plus personne ne s'indigne de Spielberg. Je suis vieux parce que Dragon Ball Z, ça ne scandalise plus personne. Je suis vieux parce que Bioshock, c'était trop mon enfance. Ah, connard. Je suis vieux parce que Millie Bobby Brown, ça pourrait être ma mère. Ah, connard. Et ben moi, je suis vieux parce que Abyss est un grand classique, un monument de l'histoire du cinéma, et que bah, quand j'avais 15 ans, prononcer ces mots revenait à se faire gentiment tancer ou à avouer qu'on ne prenait pas tant de douches que ça. Donc Old is Beautiful, et je suis bien content d'être là pour offrir à ceux qui arrivent après nous un peu de cette beauté.
Oh, c'est beau, c'est beau. Voilà, discours engagé dès le début, moi j'apprécie.
T'as vu comment il twist un peu les intros là et...
Il s'approprie le truc, voilà.
C'est beau,
il s'approprie
c'est beau. Le truc. C'est beau à voir.
La blague sur Millie Bobby Brown.
Ouais, alors par contre, si vraiment il y a quelqu'un qui a tweeté ça, il a 6 ans, c'est un peu moche de lui taper dessus quoi.
You have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that.
The Abyss de James Cameron avec Ed Harris et plein d'autres gens qui ressort dans une version restaurée enfin en 4K mais
en
aussi
4K.
En salle, il
la
faut
légende.
Le dire.
Alors il ressort en salle, il est passé une fois à la Cinémathèque pour l'instant. Je suis pas sûr qu'il est ressorti
c'est une
nationale.
Salle, la Cinémathèque.
Oui, c'est une salle.
Bah alors il est ressorti en salle.
Il est passé en salle, voilà. Vous
mais,
avez...
Non mais on peut dire que c'était un running une blague récurrente d'internet depuis des années le fait que The Abyss voilà. N'avait qu'une version DVD dégueulasse.
Et ben c'était justement ce par quoi je voulais commencer parce que plutôt que de simplement faire une mini bio de James Cameron et dire mais qui est James Cameron, peut-être que les gens ont entendu parler de lui.
Peut-être.
Pourquoi est-ce que Abyss a un statut si particulier au sein de la filmographie de James Cameron et pourquoi cette ressortie était-elle tant attendue par certains membres éminents des internets qui ont le FDP facile ?
Bah écoute, on va effectivement parler de la place qu'occupe Abyss dans sa filmographie parce que c'est un film vraiment très important dans sa carrière. Il faut rappeler que James Cameron, il naît vraiment dans une petite bourgade paumée au milieu de nulle part au Canada parce qu'il est canadien, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, il n'est pas américain, et James Cameron, il va commencer par travailler surtout le dessin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma et donc pas beaucoup de films dans sa jeunesse, puisqu'encore une fois, il habite au milieu de nulle part, et puis il va finir comme ça par mettre un pied à Hollywood, il va dessiner des affiches pour des films de série B complètement éclatés qu'on a tous oubliés aujourd'hui.
Et du porno.
Et du porno également, comme beaucoup de gens de son époque d'ailleurs. Il va travailler comme technicien sur les effets spéciaux, notamment il va faire des matte paintings, c'est-à-dire des peintures murales pour Escape from New York, New York 1997 de John Carpenter. Il va travailler dans l'écurie de Roger Corman. Il va réaliser un premier film de commande pour un producteur italien qui se révélera être un escroc et le film est un nanar sur lequel il n'a eu strictement rien à faire ou presque, qui était donc Piranha 2, les tueurs volants, je crois que c'est ça le titre complet.
Absolument.
Donc c'est un début de carrière un petit peu chaotique. Et puis, il va réussir à, là, vraiment commencer à s'imposer, mais pas encore à s'imposer en tant qu'auteur, à s'imposer surtout en tant qu'artisan, avec un film qu'il va écrire, dans lequel il y a déjà pas mal de lui, mais qui est un film au budget et aux moyens limités, qui est donc Terminator, en 1984. Et la petite particularité, c'est que James Cameron, c'est vraiment quelqu'un de très ambitieux. Il allait d'enquérir le parquet à l'époque. Il veut devenir cinéaste et il se donne les moyens de ses ambitions puisque donc, il écrit le scénario de Terminator. Il rencontre, sur conseil de ses producteurs, un interprète potentiel pour le rôle masculin, le protagoniste Kyle Reese, donc cet homme venu du futur pour empêcher le Terminator de tuer Sarah Connor. Et cet acteur qu'il rencontre, donc, c'est Arnold Schwarzenegger. Sauf que quand Arnold Schwarzenegger lui parle du script, eh ben, il lui parle que des scènes avec le Terminator. Et Cameron se rend compte pendant le repas que, en fait, Schwarzenegger, il est parfait pour le rôle du Terminator, qui n'avait d'ailleurs pas été écrit à la base comme un colosse musculeux, ce qu'est Schwarzenegger à l'époque. Hein.
Oui, parce que le Terminator, il doit s'infiltrer parmi les humains.
Exactement, c'est censé être un mec lambda. Bon, bah, Cameron, en fait, va proposer le rôle à Schwarzenegger, qu'il accepte, il va donc réécrire le script, sauf que Schwarzenegger, il est engagé sur Conan le Destructeur, donc le deuxième film de la saga Conan, ce qui leur met 7 mois dans la tronche, puisque bah, Schwarzenegger doit partir s'engager sur le tournage, la promotion du film, etc. Et pendant cette période, non seulement James Cameron va storyboarder l'intégralité de Terminator, et quand je vous dis storyboarder, c'est-à-dire qu'il va faire des dessins avec des couleurs et tout, enfin c'est vraiment, il va faire les plans du film avant d'avoir une caméra entre les mains, c'est assez sidérant. Et puis il va surtout écrire 2 scénarios, il va écrire le scénario de Rambo 2, qui va être évidemment complètement remanié par Sylvester Stallone, et le scénario d'Aliens, donc la suite du Alien de Ridley Scott, qu'il va tourner, si ma mémoire est bonne, en 1986, donc toujours un projet de commande, tourné en plus en Angleterre, à l'extérieur des studios hollywoodiens. Ça va pas très très bien se passer entre Cameron et les techniciens britanniques, notamment parce que Cameron, qui est un bourreau de travail, ne comprend pas pourquoi l'équipe s'arrête de travailler à 16h pour prendre le thé. Ça fait pas partie de ses mœurs. Et donc arrive en 1989 Abyss. Pourquoi Abyss, c'est une date marquante dans sa filmographie? Parce qu'en fait, c'est son premier vrai film d'auteur. Si vous voulez savoir à quel moment James Cameron est devenu le James Cameron qu'on connaît aujourd'hui, c'est avec Abyss. Et Abyss, bah, c'est un film qui donc était invisible dans de bonnes conditions pendant, ouais, je crois, quasiment 15 ans, un truc comme ça.
Facile.
Depuis la dernière édition DVD, vraiment dégueulasse pour le coup. Et la particularité d'Abyss, c'est contrairement à la plupart des films de James Cameron qui a presque toujours trusté les sommets du box-office, Abyss, c'est loin d'être une plantade, c'est un film qui va rapporter de l'argent, mais c'est pas un très gros succès. Et ça on y reviendra, probablement le film le plus difficile qu'il ait eu à tourner de toute sa carrière. Donc, bah, l'un dans l'autre, c'est à la fois la première fois que Cameron est en pleine possession de ses moyens en tant que scénariste, en tant que concepteur d'univers et en tant que réalisateur. Et c'est aussi la première fois qu'il va se prendre une petite déculottée au box-office parce que bah, Terminator et Aliens, c'était des gros succès, des films qui avaient rapporté beaucoup de pognon. Donc, est-ce que c'est pour ça que le film a mis aussi longtemps à revenir dans de bonnes qualités? Peut-être, d'autant plus qu'un autre film de Cameron qui a mis très longtemps à revenir dans une bonne qualité, c'était True Lies, film d'action qu'il a réalisé entre, si je ne dis pas de bêtises, Terminator 2 et Titanic.
Exactement.
Toujours avec Arnold Schwarzenegger, et qui est un film, moi, je trouve très réussi à bien des égards, mais c'est pas un film aussi important dans la carrière de Cameron que
c'est
ce qu'il a produit.
C'est un film mineur même dans ses ambitions.
Oui, oui, complètement. C'est une cour de récréation pour lui.
Bah, on peut le dire, hein, y a une exposition sur lui en ce moment à la Cinémathèque.
Exactement. Ouais.
On voit tous ses films. Sauf True Lies.
Ouais, True Lies n'est pas
vraiment
représenté. Je crois qu'il y a l'affiche du film, mais je suis pas sûr.
Même pas.
Alors que la Cinémathèque française aurait pu mettre à l'honneur ce remake de La Totale.
Ouais, c'est mais vrai. Alors, qui, par contre, est projeté dans la rétrospective. Non, pas La Totale,
ah, pardon.
True Lies. non, mais True Lies est projeté avec les autres films de James Cameron. D'ailleurs, je crois qu'il y a une projection 35mm de Piranha 2 qui a eu lieu aussi. Mais d'ailleurs, il faut savoir que le storyboard dont je parle du premier Terminator est exposé en partie à la Cinémathèque et vraiment, les dessins sont hallucinants. Ça ressemble très pour très au film. J'ai rarement vu un truc pareil. Mais donc voilà, pour présenter Abyss, c'est le premier vrai film d'auteur de James Cameron et c'est la première fois qu'il se plante un peu.
Juste pour compléter un tout petit peu ton propos, Alexis, je me permets.
Vas-y.
Tu l'as dit, effectivement, le film était invisible dans de bonnes conditions depuis 15 ans. Il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'il y a donc des campagnes sur Internet pour essayer de pousser James Cameron en France, mais pas que, hein, vraiment pas que. Un peu partout dans le monde, parce qu'en fait, c'est pas le seul film qui n'a jamais été réédité dans de bonnes qualités. Hein. On se demandait, Titanic n'avait pas encore de version 4K,
oui.
True Lies non plus. Et donc là, Disney ressort un peu plusieurs de ses films, justement, en 4K. Et on a eu un peu peur qu'on a vu les images du remaster, notamment de True Lies, parce que James Cameron est certes brillant, mais aussi, il aime bien la technologie. Et le problème, c'est que plutôt que de faire un remodelage, réétalonnage à la mano où on change plan par plan, image par image, où on essaie de bien retravailler le tout, il a co-créé un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer l'image. Donc, quand on voit les images de True Lies, on se rend compte, mince, la peau est très lisse. Il n'y a pas de grain. C'est étrange. Et le rendu est même bizarre. Alors, j'ai pas pu voir intégralement le True Lies dans la nouvelle version. Il paraît que c'est très dérangeant. Du coup, on a tous eu peur en disant « Putain, s'il fait la même chose avec The Abyss, ça va être compliqué !» Eh ben, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu pas mal de, j'ai lu pas mal de tests des Blu-ray, parce qu'il y en a maintenant, il est sorti, vu que le Blu-ray vient de sortir. Beaucoup de tests avec des screenshots, et je suis heureux de vous annoncer que c'est beau. Et que c'est beau. Et on a de la chance.
Je vais pinailler un tout petit peu parce que en fait il existe deux masters différents. Il y a eu un master pour la salle que moi j'ai pu voir donc à la Cinémathèque, qui est absolument impeccable, et un master Blu-ray qui est donc sorti aux États-Unis le 12 mars dernier. C'est pas tout à fait le même. Les images du Blu-ray sont un tout petit peu plus lissées,
un peu plus lisse
que les images.
Mais franchement, par rapport à
PCP, Life, 4K,
c'est
mais bon, c'est
incomparable.
Oui, complètement, oui, complètement.
Incomparable. Voilà, c'était juste pour ajouter une petite pierre.
Oui, et puis alors. Abyss, tu disais, c'est le premier film d'auteur, en tout cas le premier film où James Cameron est en pleine possession de ses moyens, et avec des moyens financiers et techniques conséquents, parce que tu l'as dit, ça a été un film très compliqué à tourner, mais pourquoi ? L'essentiel de son action se passe sous l'eau, dans une station, une station sous-marine qui est en partie immergé en pleine apocalypse, et tout simplement, bah, contrairement à aujourd'hui, on tournerait en sec, c'est-à-dire qu'il faut voir que la plupart des séquences sous-marines que vous voyez aujourd'hui dans les films sont tournées sans eau, avec en gros des câbles, des ventilateurs, et puis on rajoute après en post-prod quelques effets pour donner l'impression qu'on est immergé. Là, tout ce qui se passe sous l'eau, bah, c'est sous l'eau. Les acteurs tournent énormément de scènes à moitié dans la flotte, en devant faire beaucoup d'apnée, enfin bref, il y a quantité de défis physiques, techniques, humains dans le film, mais dans toutes les séquences, le regarder, c'est une expérience épuisante. Donc on n'ose pas imaginer à tourner ce que ça a dû être. Et en plus de ça, mais j'y reviendrai peut-être après, il y a des effets spéciaux qui étaient sinon révolutionnaires pour l'époque, qui en tout cas poussaient vraiment dans leur dernier retranchement pas mal de techniques. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'il est venu il y a une dizaine d'années, plusieurs années d'affilée en France, notamment un festival qui s'appelait Mauvais Genre, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Johnson, qui s'est occupé dans le film de faire les petites bébêtes, les aliens. Et je vous dirai un peu après moi ce qu'il avait pu me raconter du cauchemar. Je crois que c'est le seul tournage sur lequel il a fait vraiment sur le plateau une dépression nerveuse. Mais enfin voilà, bref, ça a été effectivement un tournage absolument homérique.
Bah, juste pour compléter un petit peu le propos, aujourd'hui je vais être monsieur fun fact. Tu disais effectivement beaucoup de scènes sous l'eau, beaucoup de scènes en apnée. James Cameron, il est connu quand même pour pas être très sympa avec ses équipes. Tu l'as dit, hein, si Johnson n'a pas bien vécu le tournage, c'est en partie parce qu'il peut être très très dur. Hein. Je vais aller un peu plus loin que ce que tu disais sur la pause que tu as dit tout à l'heure ironiquement. James Cameron, il pousse les gens très loin dans leur retranchement. Et donc, petit fun fact, qui est franchement pas très fun, il y a plusieurs scènes où il a poussé Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio à aller plus loin. Et il me semble, si je me trompe pas, qu'il y a une scène où il a même carrément déplacé la bouteille d'oxygène pour qu'il puisse respirer, pour qu'elle fasse encore 10 mètres supplémentaires.
On en reparlera. C'est sur la scène finale avec Ed Harris, seul. Ça, c'est arrivé juste à Ed Harris. Mais il a fait des dingueries avec
Il a fait des dingueries quand même.
Il faut peut-être repitcher quand même un petit peu Abyss pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Parce qu'encore une fois, on parle d'un film très connu, mais pas visible dans de bonnes conditions pendant 15 ans, donc il y en a certainement pas mal de vous qui sont passés à côté. Moi-même, je l'ai découvert pour la première fois il y a quelques années seulement avec une copie 70 mm qui était passée à la Cinémathèque. Le film donc nous raconte, pour résumer brièvement, l'histoire d'un sous-marin américain qui, après une rencontre étrange au fin fond de l'océan avec donc une créature alien, pas extraterrestre du coup parce qu'ils sont là, mais une créature quand même bien différente de nous, et ce sous-marin, parce que ses communications et sa géolocalisation a été perturbée par cette rencontre, va s'écraser contre un récif dans le fin fond des abysses. Et que fait le gouvernement américain, qui doit évidemment absolument récupérer les ogives nucléaires contenues dans ce sous-marin? Ils envoient une escouade de marines dans une station de forage pétrolier un peu particulière, puisque cette station, elle est elle-même sous-marine à 500 mètres, si ma mémoire est bonne, sous le niveau de la mer. Et donc, ces militaires vont descendre dans cette station, et cette station, elle va être déplacée vers le sous-marin, et donc ils vont travailler main dans la main avec les ouvriers de cette station de forage, dont le leader est Ed Harris. Et avec les Marines descend une femme jouée par Marie-Elisabeth Mastrantonio, donc qui est la future ex-épouse de Ed Harris, et qui est la conceptrice de la station de forage. Évidemment, il va y avoir toute une série de catastrophes qui vont les couper du monde. Et là, l'objectif, ça va être de trouver un moyen non seulement de survivre, d'accomplir leur mission, mais aussi, bien sûr, de remonter à la surface, tout en continuant occasionnellement de croiser ces fameux aliens qui se baladent un peu à droite à gauche. Donc, le film a été effectivement tourné sous l'eau. Et il faut préciser un peu, parce que moi, je trouve que ça participe grandement à l'expérience du film. En gros, ils ont investi je crois que le silo, on va appeler ça comme ça, d'une centrale nucléaire désaffectée aux États-Unis, qui plus précisément n'avait jamais été mise en service. Elle a été construite, et puis finalement, pour des raisons diverses et variées, elle n'a jamais tourné. Quand ils sont arrivés, le bâtiment était à l'abandon. Et donc, ils ont pris cette énorme cuve qu'ils ont remplie de flotte, mais vraiment remplie de flotte, en mettant au fond de la cuve le décor de la station de forage, et pour couronner le tout, parce qu'évidemment dans les abysses il n'y a pas la lumière du soleil, il fait nuit tout le temps, ils ont recouvert la cuve d'une bâche, et en plus ils ont mis sur l'eau, je crois, plusieurs milliards de billes de polystyrène peintes en noir pour opacifier l'eau et permettre quand même aux plongeurs de remonter à la surface, puisque le principe, c'est que quand vous remontez, les billes s'écartent naturellement pour vous laisser passer, et ensuite, avec le flux et le reflux naturel de l'eau, les billes se remettent en place, et comme ça, vous avez de l'eau opaque tout le temps. Ce qui veut donc dire que toutes les séquences que vous voyez dans le film, où les personnages ne sont pas en plongée, parce qu'évidemment, quand ils sont en plongée, c'est sous l'eau, ça se voit, mais quand ils sont à l'intérieur de la station, au sec, entre guillemets, en train de parler, il faut bien comprendre que ils sont pas dans un studio hollywoodien climatisé, avec du chauffage, et puis de l'autre côté des décors, il y a les loges.
On leur mouille la nuque avant de direction, et puis dès qu'on dit couper, il y a quelqu'un qui vient les sécher.
Non, ils sont dans un décor qui est au fond de 30 mètres de flotte, sans voir la lumière du jour, et ils vont y passer, dans ce décor-là, je crois que c'est 12 heures de tournage quotidien, pendant, accrochez-vous, 174 jours de tournage. C'est
pendant 6 mois, quoi.
Voilà, c'est probablement dans le top 5 des tournages les plus apocalyptiques de l'histoire du cinéma, et je crois qu'il n'y a aucun autre tournage qui a nécessité d'immerger toute une équipe et tout un décor pendant aussi longtemps. C'est absolument dingue.
En effet, et puis donc à tous les niveaux, c'est-à-dire que, par exemple, des séquences qui s'annonçaient a priori comme moins périlleuses, je pense donc aux séquences avec les aliens, avec les intraterrestres, donc on va chercher Steve Johnson, qui est un brillant technicien d'effets spéciaux, à qui vous devez notamment, mais pour ne citer que quelques petits exemples, les tentacules mécaniques de Dr Octopus dans Spider-Man 2, qui sera... un de ses derniers grands travaux. Vous lui devez aussi les fantômes, des premiers SOS fantômes. En fait, vous lui devez plein de trucs. Bref, Steve Johnson, alors il faut se méfier parce que c'est aussi quelqu'un qui a une tendance, on va dire, il peut avoir un petit côté marseillais, quoi, sur les bords. Mais néanmoins, moi, je me souviens bien de ce qu'il me racontait. Il me dit, en gros, il est contacté par James Cameron. Il est surexcité parce qu'il a vu, bien sûr, et Terminator et Aliens. Et en gros, on lui dit, il me faut des aliens qui vont flotter dans l'eau, mais vu que, de toute façon, c'est des trucs mécaniques avec de l'électricité, il y aura une paroi de verre, et en fait, l'alien sera, tu vois, comme ça, on aura l'impression qu'il est immergé comme le reste des personnages, mais en fait, il sera soutenu par des câbles. Bon, ça peut se faire, mon James, il n'y a pas de souci, hop, je vais te les faire. Ah ouais, il faut que ce soit super souple, bon, d'accord, ça va être un peu plus compliqué, mais je peux te le faire. Ah mince, maintenant, ils n'ont plus une couleur, ils sont translucides. Ok, faut pas qu'on voit les mécanismes, les fils électriques, les machins. Ok, bon, le tournage se rapproche toujours pendant ce temps-là. Ouais, mais je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Ah, ils sont plus seulement translucides, ils changent de couleur. Mais ok, il n'y a pas de souci. Ah merde, finalement, on va les tourner dans l'eau.
Ah, ok, ça, c'est la galère
avec de l'électricité.
Ça, c'est la
ah merde, finalement, vu comment tu as lancé ta caméra, on verra s'il y a un câble d'alimentation électrique. Ah ouais, et donc voilà, au final, ils ont réussi, mais Steve Johnson a fait une dépression nerveuse en plein tournage. Mais oui, voilà, le film a été un espèce de défi complètement dingue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est le premier film complètement maîtrisé par Cameron, mais c'est peut-être celui dans lequel certains de ses systèmes de mise en scène, mais aussi certaines de ses thématiques, vont apparaître vraiment, j'ai envie de dire, d'une manière très pure. C'est la première fois qu'on a, je crois, le double ou triple climax qu'il a tendance à faire. C'est-à-dire que les films, et a fortiori les films à grand spectacle, se terminent souvent par un sommet émotionnel ou spectaculaire, le climax. Chez Cameron, t'as un climax qui en amène un deuxième, qui en général en révèle un troisième. Personne n'arrive à faire ça. Quand les gens font ça, c'est insupportable, c'est trop long, c'est machin. Ouais. Chez Cameron, c'est complètement démentiel. Là, c'est la première fois que c'est à ce point-là maîtrisé, même si bien sûr c'était déjà pendant dans ses films précédents. Dans Aliens, on y est presque. Et dans Terminator 1, déjà, il y a plusieurs scènes spectaculaires qui s'enchassent. Mais là, c'est vraiment, c'est très très impressionnant de maîtrise. Et puis, un élément qui devenu très fort dans son cinéma, qui est ce qu'on appelle, ou ce que les Grecs appelaient le kairos. Pas exactement le destin, mais en fait une espèce de manifestation, un geste du héros qui ne prendra son sens qu'après coup, qui est un geste instinctif. C'est-à-dire à un moment où le héros n'agit pas par bonté d'âme, par courage, par génie intellectuel, mais tu vois, dans un espèce de geste réflexe qui va se révéler fondamental pour le reste de l'aventure. Un exemple tout bête au début d'Abyss, c'est donc Ed Harris qui est, enfin le personnage interprété par Ed Harris, qui est agacé, tourmenté par l'arrivée donc de cette femme dont il va divorcer, il est aux toilettes, il a un geste d'humeur, il jette son alliance dans les toilettes, et il a le réflexe in extremis de la récupérer. Il sauve cette alliance au dernier moment. Quelques minutes plus tard dans le film, quand la station va commencer à être immergée, que les portes automatiques tout simplement se ferment pour éviter que l'eau se répande partout, il ne doit son salut qu'au fait qu'il a le réflexe de projeter sa main là où la porte va se fermer, et si la porte ne lui écrase pas les doigts, c'est parce qu'il a encore cette alliance qu'il a donc failli jeter et qu'il a récupéré d'un geste réflexe. Ça, c'est une conception du geste héroïque ou du geste signifiant qu'on appelle le kairos, qui nous vient des Grecs, et c'est un truc qu'on retrouve dans tout le cinéma de Cameron, qui est super important dans ses constructions dramaturgiques, et c'est là la première fois que ça s'exprime aussi fort. Sophie, tu nous disais en privé avant que c'était ton film préféré. Et du coup, t'étais un peu émue et tu voulais pas en parler.
Les bâtards.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
En fait, c'est bizarre parce que Abyss est un film auquel je n'ai envie de faire aucun reproche, parce que fondamentalement, je le trouve absolument stupéfiant, que ce soit en termes de réalisation, de direction d'acteur, de tension, de narration, de montage. Vraiment, c'est un film auquel je n'ai envie de faire aucun reproche. Puis en plus, j'entends souvent Alexis me parler genre de la tension du tournage, et puis ils ont vraiment fait ça sous l'eau. Et puis tu vois, quand Ed Harris, il a le casque qui a de l'eau dedans, il avait vraiment de l'eau dedans.
L'imitation est exceptionnelle.
Et je vous jure que c'est c'était comme ça tout notre repas de midi. Non, mais...
Je suis un peu obsessionnel.
et je suis fascinée, en fait, par tout ça. Et pourtant, c'est un film qui ne me parle pas. C'est-à-dire que je le regarde sans déplaisir, mais je ne sais pas expliquer pourquoi le film me passe quand même un peu au-dessus de la tête. Donc, en fait, c'est très gentil de vouloir me donner la parole dessus. En plus, de base, je pensais ne pas avoir le temps de le revoir. Je l'ai revu. Et... Je sais même pas expliquer pourquoi. Après, je suis pas très familière du cinéma de Cameron. Hein. J'aime pas Avatar. J'ai pas vu Terminator. J'ai pas vu True Lies. J'ai vu Abyss. Et voilà. Et j'adore Titanic. Par contre, je peux vous parler de Titanic. Alors, vous voyez pourquoi Titanic, c'est super.
C'est pas
déjà fait.
Le sujet de l'émission.
Et notamment, dans Abyss, il n'y a pas Céline Dion. Et moi, ça me pète un peu les couilles.
Il n'y a pas James Horner non plus, mais on en reparlera peut-être.
À la limite, je peux vous parler de la musique de Sylvestri. Quoi.
Bah ouais, quand même.
C'est
la seule collaboration entre Cameron et Sylvestri.
C'est la seule collaboration. Et puis, c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de moments où le thème d'Abyss et de Roger Rabbit, c'est le même.
En fait, mais.
Et c'est pas faux en plus.
Non, mais c'est vrai. C'est complètement vrai.
Et moi, ça me fait rire parce que Sylvestri, c'est partie de ces compositeurs qui sont super reconnaissables, notamment par la rythmique et le fait qu'il adore créer des espèces de boucles musicales qui se finissent toujours par une espèce de montée. De monter un peu aigu ou en tout cas plus dramatique. Il le fait super bien sur Retour vers le futur dans Roger Rabbit ou notamment dans Abyss. Mais en fait, c'est rigolo parce que il a on dit souvent « Ah, je reconnais Danny Elfman parce que c'est légèrement dissonant et puis un petit peu trop...
» Moche.
Non, mais c'est légèrement dissonant et on le reconnaît entre mille. Mais moi, je trouve que celui que je reconnais à chaque fois, c'est vraiment Sylvestri. Mais pas par sa sonorité que par sa composition musicale. Et pourtant, je ne suis pas si calée que ça, mais ça m'intéresse parce que je trouve qu'il est très, très, très reconnaissable.
Mais tu fais bien de parler des similitudes entre la musique de Abyss et celle de Roger Rabbit. Et d'ailleurs, En vrai, il a repiqué des trucs de Retour vers le futur aussi, l'espèce oui. de ta-la-la-la-la. Ça, tu l'entends pas mal de fois dans le dans Abyss. Mais le truc, c'est que ce film-là, ce qui est aussi intéressant, quand tu connais bien la filmographie de Cameron et que t'es passé à côté, ce qui est intéressant de le revoir, c'est que tu te rends compte que, évidemment, inconsciemment, il est un peu en train de répéter tous les films qui vont venir après.
Bien sûr.
C'est-à-dire que toute cette civilisation alien qu'on va voir par petites touches, qui a une approche très particulière quand même, parce qu'ils sont très colorés, luminescents. Vraiment, c'est.
C'est les navis.
Ouais, c'est les
navis. Non, c'est la nature autour des navis.
Ouais, c'est clairement ça. C'est déjà une répétition pour la faune d'Avatar. Il faut savoir que Avatar, il commence à le développer dès les années 90. Donc, c'est certainement déjà en train de lui tourner un petit peu dans la tête à ce moment-là. Toute la partie où la station est inondée, filmée en caméra épaule avec les portes qui se ferment les unes à la suite des autres. Il le refait dans Titanic avec la salle des machines, ouais, exactement.
Et dans Avatar 2.
Et dans Avatar
2. Le climax d'Avatar 2, c'est quand même Abyss.
C'est ma scène préférée, hein, d'ailleurs, de Abyss. Moi, c'est sans doute
fortes,
c'est cette tension de qui va survivre ou non, pourquoi cette espèce de, j'ai envie de dire, de fatalité qui l'impose à ces personnages. Là où dans Titanic, en fait, il prend même pas vraiment le temps de les caractériser en tant que personnage, mais en tant que classe. Et là, moi, je trouve que c'est déjà un petit peu moins fort dans Abyss, même si la scène est tout aussi forte en termes de tension, je veux dire de découpage et de montage, parce que les personnages sont beaucoup moins caractérisés. T'as l'impression que c'est un peu obligatoire narrativement de tuer quelques personnages à ce moment-là, ou en tout cas d'en éliminer pour garder un noyau central de personnages. Donc je trouve que ça fonctionne mieux dans Titanic. Puis encore une fois, dans Titanic, il y a une chanson de Céline Dion.
Oui, ok.
Pierre-Rose, ils étaient tous là pour
Ah, c'est bon. Non, mais en plus, outre le fait de répéter, entre guillemets, ce qu'il fera dans Titanic, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a dans Abyss, et je crois que c'est une première dans l'histoire du cinéma, en tout cas, aussi bien fait, ça c'est à peu près sûr, une créature intégralement numérique.
Alors, ça n'est pas une première, la première c'est dans Young Sherlock Holmes, c'est un vitrail qui s'anime, qui sera repris en hommage dans le jeu Medieval.
Oui, c'est vrai, mais qui reste fixe. Techniquement parlant.
Non, mais surtout qu'il n'est pas organique. Ah ouais, c'est pas vivant. Ce sont des morceaux d'objets qui s'animent.
Voilà. Parce que là, on parle à un moment, il y a une créature extraterrestre qu'on ne voit pas d'ailleurs techniquement dans la scène, mais qui va prendre possession d'une colonne d'eau qui va se balader comme ça à l'intérieur du vaisseau et qui va surtout au contact des personnages de Ed Harris et de Marie-Elisabeth Mastrantonio mimer leur visage. Et ça, pour le coup, c'est une révolution. Ouais. Qui prépare un autre film qui est Terminator 2.
Ou Antise, avec...
Oui, mais moins bien exécuté, okay, si
Sophie
je peux pour
troller, laisse tomber.
Non, mais c'est vraiment un effet qui est repris, hein, je mens pas. Hein.
Ah oui, complètement, ouais.
Enfin, pour moi, il y a deux éléments. Le premier, mais ça a à voir avec ce qu'on disait du triple climax, etc., c'est le scénario. C'est un film qui est invraisemblablement bien construit. Ouais. La dramaturgie est millimétrée. Enfin, c'est super bien branlé en termes d'écriture. Et moi, surtout, j'y suis assez sensible parce qu'on dit presque jamais ça de Cameron. C'est un formidable directeur d'acteur. Vraiment un formidable directeur d'acteur. Marie-Elisabeth Mastrantonio, moi je la trouve absolument bouleversante dans le film. Les scènes à l'approche du dernier acte entre elle et Ed Harris, vraiment, je la trouve absolument bouleversante. Ed Harris, je ne suis pas convaincu qu'il ait déjà été meilleur. Or, c'est quand même un sacré fichu putain de bon acteur. Mais il est absolument remarquable dans ce film-là. Michael Biehn, qui était un héros un peu palo, un peu fantoche dans Terminator.
Complètement, ouais.
Là, ça devient un marine terrifiant, mais vraiment un type flippant, quoi, tu vois. Alors que bon, Michael Biehn dans Terminator, il te fait quand même moins peur que Schwarzenegger. Là, moi, je fais pas le malin. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à tirer et à faire donner des choses à ses comédiens qui sont absolument remarquables. Et juste pour en terminer avec ça, j'aimerais signaler, c'est un détail, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Il y a un des personnages secondaires, le personnage de Lou Findler, qui est interprété par un comédien. J'aimerais saluer ses parents parce qu'ils ont ou un sens de l'humour particulier ou alors ils sont cons comme des balais. Cet acteur s'appelait, je sais pas s'il est vivant, Captain Kid Brewer Jr. Et alors, donner comme prénom à ton fils Captain, c'est déjà pas mal. Ajouter Junior et faire Captain Kid Brewer Jr., c'est génial, quoi. Allez, gloire au destin, quoi.
Tu parlais de l'écriture. Moi, j'ai vu le film il y a quelques années, à l'époque où je m'étais fait un marathon James Cameron. Dites-moi si je me trompe, mais dans mes souvenirs, moi, il y a plusieurs choses qui m'avaient fasciné. Déjà, il me semble que c'est peut-être l'un des films de James Cameron, en dehors de Titanic, qui est un peu à part, mais où il y a le moins de séquences d'action, dans le sens où, en fait, on passe beaucoup de temps avec les personnages. Alors, peut-être que c'était la version longue aussi, hein, mais pour moi, il y a des scènes, évidemment, de sous l'eau, sous-marin, etc., mais il y a quand même cette notion de l'ambiance, de la tension, que la tension, d'ailleurs, vient pas forcément d'un méchant, entre guillemets, mais plus de juste la tension qu'il y a entre les personnages, du fait qu'on est ensevelis tous ensemble et qu'on sait pas trop ce qui se passe ni où on va, et que quand on voit arriver ces extra intraterrestres, ou plutôt, on va dire, ils sont pas menaçants, ils sont beaux, ils sont merveilleux. J'ai l'impression qu'ils renversent à plein d'endroits ce qu'on pourrait attendre d'un film considéré comme étant SF. Je sais pas, encore une fois,
c'est toujours le cas
lointain, mais
je crois que c'est Julien Dupuis qui le disait à la Cinémathèque quand il y a eu la projection d'Abyss, puisqu'après il y a eu un dialogue avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis de la team Capture Mag, dialogue très intéressant qui m'a d'ailleurs fait regretter que ce soit pas eux qui animent la masterclass de James Cameron à la Cinémathèque, au passage. Mais le truc, c'est que je crois qu'ils en ont parlé à ce moment-là pour dire que quand tu réfléchis vraiment qu'est-ce qui est au cœur des histoires que raconte James Cameron, parce que c'est quand même un cinéaste qui est presque toujours aller vers le monumental, vers le grand spectacle, et qui a produit probablement les grands spectacles les plus aboutis et généreux. Ouais. Et c'est quand même quelque chose, hein, la fin de Terminator 2 en termes de pyrotechnique. Quoi. En fait, quand tu vas au cœur, tu te rends compte que c'est jamais des histoires intrinsèquement spectaculaires. Mmh. Abyss, c'est l'histoire d'un couple qui, dans l'adversité et le contact avec une altérité, va trouver un moyen de se rabibocher. True Lies, qui est pourtant parti pour être une comédie d'action espionnage, bah pareil, c'est l'histoire d'un couple qui va mal et qui va se rabibocher. Titanic, c'est pas l'histoire du naufrage d'un bateau, c'est l'histoire d'un couple. Bah, encore une fois, c'est presque plus toujours des histoires d'amour, des trucs très intimes, à peu de personnages.
Surtout qu'ils divorcent juste après le film. Ils se séparent juste avant le tournage, ils signent les papiers du divorce juste après.
Ouais, c'est ça. Ils se séparent de Galen Hurd, sa productrice, qui est aussi la productrice d'Abyss, comme si le tournage n'était pas suffisamment compliqué comme ça. Et évidemment que ça a beaucoup infusé dans l'écriture, je pense, parce que le personnage de Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui est un personnage que je trouve vraiment super fort, c'est pour moi, je reparlerai peut-être un peu après des personnages féminins chez Cameron, parce que moi j'ai toujours un petit souci avec ces persos féminins. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est un personnage de femme qui est assez bien foutu, qui est pourtant pas un personnage immédiatement aimable. C'est une grande gueule, elle est un peu hautaine, certes elle connaît tout le monde sur la station, mais tu sens que fondamentalement, elle est appréciée de personne, probablement parce qu'au moment de la conception et de la mise en service, elle a dû leur casser les couilles comme jamais.
Ouais, c'est elle le personnage le plus proche de Cameron, hein, très concrètement. C'est pas, il se transpose pas dans Ed Harris.
Ah non, pas tout. Alors,
enfin, pas uniquement.
Oui et
pas
non.
Uniquement.
Oui et non, parce que mine de rien, entre guillemets, le personnage de Marie-Elisabeth Mastrantonio, c'est la productrice du personnage de Ed Harris. Donc, je pense que il y a un petit peu de, peut-être un peu de ressentiment qui s'est glissé à un moment dans l'écriture du film. Néanmoins, Galen Hurd est restée productrice du film. Ils ont travaillé main dans la main jusqu'au dernier jour de tournage et même jusqu'au dernier jour de post-production. Parce qu'elle était vraiment
après,
très impliquée.
Il divorce.
Et après, il divorce. Mais ouais, en tout cas, c'est un film qui a été nourri peut-être un peu plus intimement par la vie privée de Cameron, plus en tout cas que certains de ses films ultérieurs.
Alexis, pour conclure.
Bah, écoute, il faut préciser que le film a deux versions. Ça, c'est important. Il y a une version salle qui, je crois, dure 2h20 et une version director's cut de 2h50.
Ouais.
Et la différence est de taille, puisque dans la version salle, les aliens sont vraiment traités comme une sorte de présence un peu mystique, hein, à la façon d'un 2001 l'Odyssée de l'espace. Ils sont là, on entre en contact avec eux, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont et on ne sait pas ce qu'ils veulent.
Ah bah, y a une rêve très explicite à 2001 l'Odyssée de l'espace dans un plan, hein, d'ailleurs.
Ouais, le tunnel de lumière.
Le tunnel de lumière qui se reflète sur le casque. On sent que la référence, elle est là. Hein. Et c'est pas un reproche. Hein, parce que je me demande s'il est encore possible de faire un seul plan sur de la lumière sur un casque sans que ce soit une ref à 2001.
Sans que ce soit considéré comme une ref à 2001, au minimum. Ouais,
mais
je pense
comme
que
toute personne qui est réalisateur, j'ai l'impression qu'ils ont tous vu 2001 le décès de l'espace.
Surtout Cameron, donc ouais, clairement, c'est une référence. Ouais. Non, mais oui, donc le film a deux versions et la version Director's Cut, pour le coup, donne explicitement les motivations des extraterrestres. Donc c'est pas le même film. Vraiment, c'est pas le même film et vous n'en sortirez pas avec les mêmes sensations. Et en plus, ce qu'il faut, à mon sens, un peu dire quand même, faut bien comprendre qu'on est là à parler du cinéma de James Cameron et à dire que c'est un grand cinéaste parce que c'est un grand cinéaste. C'est un cinéaste très autoritaire. Tu l'as dit, Arthur, qui pousse les gens dans leur retranchement. C'est le cas aussi sur Titanic, c'est le cas aussi sur Avatar, hein, parce qu'Avatar, c'est des tournages qui sont quand même très exigeants. Hein, vous êtes en performance capture toute la journée, vous n'avez pas d'éléments de décor, il faut tout vous représenter, c'est des tournages compliqués.
Tu m'en as qu'à tout de battre le record d'apnée de Tom
Cruise. Par exemple, voilà. C'est quand
mais t'imagines, les gars, ils viennent se dire, c'est tranquille, là, on est en performance capture, on n'aura pas de problème, et il fait, ah si, tu vas quand même faire de l'apnée,
y'a il faut préciser quand même que James Cameron, sur le tournage d'Abyss, et ça c'est assez impardonnable, a franchi les limites plusieurs fois. Sur la scène finale où Ed Harris tout seul descend dans les abysses, scène qui a été tournée à l'horizontale. C'est un trucage de point de vue pour nous faire croire qu'il descend. En fait, il avance de droite à gauche. Bon, bah, parce qu'il voulait un sentiment de panique un petit peu plus sincère, James Cameron a reculé les bouteilles d'oxygène qui devaient servir de relais à Ed Harris sans le dire à Ed Harris. c'est vraiment un move de bâtard. Et puis surtout, il y a eu l'incident avec Marie-Elisabeth Mastrantonio. Il y a une séquence que je dévoile pas parce que si vous avez pas vu le film, vous allez vous la prendre dans la gueule. Mais il y a une séquence où le personnage de Marie-Elisabeth Mastrantonio est en mauvaise posture, très mauvaise posture même. C'est une séquence qui était compliquée à tourner pour elle parce qu'elle était entourée de personnages masculins à moitié à poil, devant feindre l'hypothermie. Donc ça, c'est une scène extrêmement compliquée. Et elle a, il y a Cameron a enchaîné et enchaîner et enchaîner les prises, sachant qu'avant ça, Marie-Elisabeth Mastrantonio avait tourné des séquences en apnée extrêmement difficiles et extrêmement dangereuses. Le personnage d'Ed Harris, à un moment, lui met des claques. Les claques ne sont pas simulées. Et, bête incident technique, tombé au mauvais moment, alors qu'ils sont sur le point de plier la dernière prise et qu'enfin on passe à autre chose, il n'y a plus de pellicule dans le magasin, il faut aller en chercher à la surface. Et donc, Marie-Elisabeth Mastrantonio va se lever, dire à Cameron « Je ne suis pas un animal, on ne me traite pas comme ça », et se barrer du plateau, elle n'est jamais revenue. Voilà. Jusqu'à ce jour, Marie-Elisabeth Mastrantonio refuse de parler du film et du tournage. On n'a jamais su ce qu'elle en avait gardé comme souvenir. Ou plutôt comme traumatisme.
Ah bah, à mon avis, c'est pas terrible. Enfin, je suis désolée voilà. d'enfoncer des portes.
Ah ouais, vraiment, là, c'était vraiment l'analyse.
Non, non, mais...
Enfin, je pense que c'était pas ouf.
Non, mais il faut le dire.
Non, mais c'est terrible.
James Cameron s'est comporté comme la dernière des merdes. Le problème, c'est que, contrairement à d'autres cinéastes qui se comportent sur tout leur plateau comme la dernière des merdes et qui n'en branlent pas une, on pourrait parler, par exemple, on en parlait d'ailleurs hors micro tout à l'heure avec Sophie de Jean-Pierre Genet sur le tournage d'Alien 4 où Winona Ryder a quand même failli se noyer. Bon, Jean-Pierre Genet, il a jamais foutu les pieds dans la piscine, lui. James Cameron, lui, il était aussi en combinaison de plongée toute la journée avec les équipes. Et il y a des images de making-of, parce qu'il y a un long making-of du film où on voit que James Cameron, en plus, passe beaucoup plus de temps que les autres sous l'eau parce que lui, il passe en beaucoup d'heures dans les caissons de décompression avant de pouvoir remonter à la surface. Et pendant ces heures-là, il visionne les rushs de la veille. Enfin, le gars n'arrête jamais de travailler. Donc, ce qui est terrible pour les acteurs, c'est que James Cameron les pousse à bout de manière complètement déraisonnée. Et en plus, il se pousse lui-même à bout encore plus que les autres, donc on peut pas lui faire de remarques.
Ouais,
et à partir de là, vous êtes piégé en fait.
Ouais, mais en même temps, lui, il était pas torse poil en train de se prendre des grosses gifles de Ed Harris. Hein.
Non,
ou sinon,
non.
Par
contre,
c'était des soirées de fin de tournage un peu étranges.
Non, par contre, il a vraiment failli se, il a failli se noyer plein de fois. Un assistant qui lui a mis de l'eau dans la bouche, lui mettre de l'oxygène alors qu'il était déjà en panne d'oxygène depuis plusieurs secondes.
Ça.
Donc non, il a failli mourir plusieurs fois. Il a fait des accidents de décompression. C'est un tournage catastrophique pour tout le monde.
Est-ce que ça vaut le coup?
Oui.
Bah.
Ah bah, ça vaut pas le coup de torturer son équipe, jamais. Par contre, d'aller tourner sous l'eau, oui, quand on voit la gueule du film, clairement, ça valait le coup.
Abyss de James Cameron avec Ed Harris, Marie-Elisabeth Mastrantonio, Michael Biehn, Léo Burmeister, mais surtout, 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 évidemment, évidemment, Captain Kid Brewer Jr. Et vous, êtes-vous plutôt divorce à queue ou 20 milieux sous les mers?
Ah, pas mal. Pas mal.
Et je l'ai réécrite là en direct parce que la première version que j'avais faite était vraiment pas...
Tu vas pas nous la dire.
Pas digne, pas digne.
Tu vas pas nous la donner
Après, hors micro.
D'accord. Okay.
Mais bref, on n'est pas là pour barboter. Alexis veut nous parler d'un classique situé sur la terre ferme, Hitcher, réalisé par Robert Harmon, avec Rutger Hauer, un film de 1986 qui jouit d'une superbe édition Blu-ray signée Sidonis.
Oui, et d'ailleurs, autre film qui a été pendant longtemps invisible en France dans de bonnes conditions. Alors, je vais être très bref. Hitcher, c'est un road movie tourné donc en 1986. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui décide qu'il va aller tenter sa chance et vivre la grande vie à Los Angeles. Et pour accéder à la Californie, il choisit d'être convoyeur de voiture. C'est-à-dire qu'en gros, on le paye pour transporter la voiture du point de vente jusque chez le propriétaire. Et donc, il traverse le désert américain en se disant que, bah, une fois qu'il arrive en Californie, il lâche la bagnole et il s'installe sur place et puis advienne que pourra. Et sur la route, il va prendre un autostoppeur qui s'appelle John Ryder, on n'en fait plus des noms de personnages comme ça quand même, qui est joué par Rutger Hauer, probablement dans son rôle le plus terrifiant après celui de Roy Batty dans Blade Runner, qui s'avère être une espèce de pourriture de la pire espèce, un tueur en série sadique dégueulasse qui va le harceler et le pourchasser partout dans le désert. C'est un film qui est particulièrement âpre et tendu, pas du tout dans les codes de la série B, ni d'action, ni d'horreur de l'époque. Hein. On n'est pas du tout dans le culte de la virilité et de la grandeur des héros américains. Pas du tout. C'est un film sur une Amérique qui n'arrête pas de tourner en rond. D'ailleurs, le film lui-même ne fait que tourner en rond. De station-service en diner, au milieu de ce désert, on ne sait jamais dans quelle direction on est complètement perdu dans l'espace. Et au milieu, il y a cette espèce de figure un peu fantomatique, complètement possédé. C'est vraiment un film que je trouve super chouette. Il y a pas mal d'articles hein, qui existent sur l'internet français, francophone en tout cas, sur Hitcher, parce que c'est un film qui a été redécouvert heureusement il y a quelques années déjà, et qui vaut vraiment le coup d'œil. Et que moi en plus je considère comme étant une sorte de prolongation un peu déviante justement des thématiques que le nouvel Hollywood travaillait beaucoup sur le rapport conflictuel à la route et aux grands espaces qui sont donc voilà ces grandes routes que les pionniers autrefois ont pris pour conquérir l'Amérique. Qu'est-ce qui se passe si on reprend ces routes-là aujourd'hui pour aller à notre humble niveau reconquérir l'Amérique? Ben en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien à conquérir et que la seule chose qu'on y trouve, c'est la violence et la destruction de soi. Et c'est un film très pessimiste et absolument passionnant. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder Hitcher, je vous le conseille vivement.
Eh bien, ça y est, les amis, c'est fini. Sachez, si vous écoutez encore cette émission, que la semaine prochaine, nous vous parlerons de mauvais biopics, nous vous parlerons de grosses balles de tennis et aussi de frères qui sont frères. Allez, à bientôt et gloire au film qui se passe dans l'eau.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.